Lizzy présente Père et fils de Daniel Steele, lu par Max Joseph. À mes chers et merveilleux enfants, Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Ce que je souhaite pour vous, c'est que vous honoriez le passé et votre histoire, ainsi que ceux qui vous ont précédé. Chérissez le présent et vivez-le pleinement. Soyez courageux. Ayez foi en l'avenir, le respect de vous-même, demeurez fidèle à ce que vous êtes et puissiez-vous trouver l'âme sœur. Je vous aime. Maman, Daniel Steele. Chapitre 1. Le 6 avril 1945, les nazis commencèrent à évacuer Buchenwald, situé sur la colline d'Ettersberg, près de Weimar, en Allemagne. Ce camp de concentration fonctionnait depuis 1937 et, en 8 ans, il avait vu passer 238 000 prisonniers, hommes, femmes et enfants, dont 56 000 étaient morts sur place. Des Tchèques, des Polonais, des Français, des Allemands. Cela faisait maintenant 2 jours que des troupes américaines stationnaient dans la région, et les nazis voulaient que tous les détenus aient quitté les lieux avant l'arrivée des Alliés. C'était un camp de travail, doté d'un crématoire, d'une infirmerie et d'un centre de recherche médicale où étaient menées d'odieuses expériences, et de baraquements pour les prisonniers, autrefois d'anciennes écuries. Ces constructions, qui avaient abrité jusqu'à 80 chevaux chacune, étaient à présent habitées par 1200 hommes, répartis à 5 par chalet. Un seul baraquement était réservé aux femmes et pouvait accueillir jusqu'à 1 millier de déportés. Le 6 avril, la plupart d'entre elles furent envoyées dans le camp de Theresienstadt, alors utilisé comme vitrine du système concentrationnaire pour les visiteurs et la Croix-Rouge. Celles qui avaient encore l'énergie de se mouvoir furent contraintes de partir en train ou à pied. Les impotentes restèrent sur place, abandonnées à leur sort. Tous les hommes que les nazis pouvaient embarquer le furent également. On les emmenait plus loin, au cœur de l'Allemagne, ou bien dans d'autres camps. L'évacuation continua les 2 jours suivants, nul ne sachant ce qui les attendait. Dans la nuit du 8 au 9 avril, Gwidon Damasin, un ingénieur polonais détenu depuis 4 ans à Buchenwald, utilisa l'émetteur à ondes courtes qu'il avait construit en cachette pour envoyer un message en morse, en allemand et en anglais. Aux alliés, à l'armée du général Patton, ici le camp de concentration de Buchenwald, SOS, demandons aide, ils veulent nous évacuer, la SS veut nous exterminer. En accord avec Damasin, un certain Konstantin Leonov envoya le même message en russe. Une réponse leur parvint 3 minutes plus tard. « 4-7 beau, tenez bon, on arrive, état-major de la 3e armée. » Le message incita les détenus encore présents à l'insurrection. Dans les heures et jours qui suivirent, ils prirent d'assaut les miradors avec les armes qu'ils avaient cachées et tuèrent certains des gardes. Les responsables du camp préférèrent fuir plutôt que d'affronter l'armée américaine en approche. À leur départ, ils laissèrent derrière eux 21 000 prisonniers, dont seulement quelques centaines de femmes. Le 11 avril 1945, un groupe de combattants appartenant à la 6e division blindée de la 3e armée des États-Unis entra dans Buchenwald. C'était le premier camp de concentration à être libéré par les Américains. D'autres l'avaient déjà été par les Russes lors de leur avancée à travers la Pologne. Aucun des soldats n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Des squelettes ambulants au regard hanté, certains trop faibles pour marcher ou même se lever, d'autres poussant des cris de joie mêlés de larmes. Les libérateurs aussi pleuraient. Les prisonniers tentèrent de les porter en triomphe, mais ils n'en avaient plus la force. Beaucoup moururent alors même que les alliés entraient dans le camp, ou peu de temps après. Avec les nazis, la malnutrition et les maladies qui en découlaient avaient été leurs pires ennemis pendant toutes ces années de captivité. Les soldats américains qui pénétraient dans les baraquements étaient horrifiés par ce qu'ils y trouvaient. la puanteur et la crasse, la déchéance des corps et l'anéantissement de ces gens trop faibles pour bouger, que les Allemands en pleine retraite auraient achevé, s'ils en avaient eu le temps. Dans un de ces mouroirs, un grand échalas squelettique tituba vers eux en agitant les bras. Il avait la tête rasée et son uniforme crasseux en loques révélait ses côtes. On aurait dit un cadavre. Et il était impossible de lui donner un âge. Il semblait désespéré. « Les femmes !» fit-il. « Où sont les femmes? Elles sont toutes parties ?»«
On ne sait pas encore, on vient juste d'arriver. Où les trouve-t-on d'habitude ?»
L'homme leur désigna un autre baraquement, vers lequel il commença à se diriger d'un pas chancelant.
« Attendez !»
l'arrêta un jeune sergent, qui le soutint avant qu'il tombe. « Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé ni bu ?»«
5 jours. »
Le sous-officier ordonna alors à deux de ses hommes de contacter le maire de Langenstein pour qu'il fournisse sur le champ eau et nourriture au camp. Un autre gradé avait déjà demandé par radio du personnel médical. Tous les détenus ressemblaient à des morts vivants.
« Laissez-moi vous conduire au baraquement des femmes, »
s'obstina le prisonnier alors qu'il tenait à peine debout. Deux soldats l'aidèrent à monter dans une jeep, tentant d'ignorer sa puanteur. L'homme ne pesait presque rien. Ses godillots, récupérés sur un autre détenu tué par les nazis, étaient ouverts à leur extrémité et leurs semelles étaient complètement usées. Une fois à destination, ils découvrirent des prisonnières dans un état plus affreux encore que celui des hommes. Toutes celles qui le pouvaient, parfois soutenues par leurs camarades, étaient sorties regarder les troupes américaines explorer le camp. Elles ne savaient pas à quoi s'attendre, mais cela ne pouvait pas être pire que ce qu'elles avaient connu jusque-là. Certaines étaient passées par d'autres camps avant d'être envoyées à Buchenwald, et d'autres avaient fait l'objet d'expériences médicales indicibles. Toutes avaient dû travailler comme des forçats. Nombre de leurs camarades n'avaient pas survécu. Les soldats entendirent alors leur guide improvisé se présenter dans un anglais fluide mais avec un fort accent. « Je m'appelle Jacob Stein, je suis autrichien et je suis ici depuis 5 ans. » Craignant qu'il ne fasse une chute en descendant de la jeep, l'un des soldats lui prêta main forte. Jacob Stein clopina aussitôt vers deux détenus à qui il s'adressa en allemand.
« Emmanuel, elle est partie ?»
demanda-t-il au bord de la panique pendant que les soldats horrifiés contemplait ces femmes à peine vivantes, aux traits dévastés. Le visage de Jacob, déformé par une grimace de terreur, ne valait guère mieux. Les militaires se demandaient s'il cherchait sa femme, mais ne posèrent pas la question. Ils se contentaient de sourire pour ne pas effrayer les détenus qui s'approchaient d'eux.
« Elle est à l'intérieur, »
croassa une femme aux lèvres violacées, enveloppée dans une vieille couverture en lambeaux. Cet amas de fils crasseux ne pouvait pas la réchauffer. Ses yeux étaient brillants de fièvre, et elle tremblait de tous ses membres, au point qu'elle trébucha et tomba dans les bras d'un soldat qui la déposa dans la jeep.
« Les toubibs arrivent, » lui dit-il. « Docteur !»
À ces mots, la prisonnière parut terrifiée et se recroquevilla. Comment aurait-il pu savoir ce qu'elle avait enduré, et que la plaie gangrenée le long de sa jambe en était le résultat direct? Le chauffeur de la jeep demanda par radio une assistance médicale pour plusieurs centaines de femmes. Pendant ce temps, Jacob entra en claudiquant dans le baraquement. Un long moment s'écoula avant qu'il réapparaisse, une femme au seuil de la mort dans les bras. À peine plus grande qu'une enfant, elle ne semblait pas peser plus de 25 kilos. Jacob vacillait pourtant sous la charge, mais ne la lâchait pas. L'un des soldats prit le relais et l'installa délicatement dans le véhicule. La détenue esquissa un sourire de remerciement.
« J'ai cru qu'il t'avait transféré, » dit Jacob en français, les larmes aux yeux. « Ils ne m'ont pas repéré. J'étais sur le chalet. Mais la moitié d'entre nous ont été emmenés. »
Si elle avait fait partie de ce convoi, la marche forcée en direction de la Bohême-Moravie lui aurait à coup sûr été fatale. Ou bien elle serait morte piétinée dans le wagon à bestiaux.
« Les Américains sont là maintenant, » dit-il d'une voix réconfortante. « Tout ira bien. »
Elle hocha la tête, ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit pour le regarder de ses immenses yeux verts. Ensuite, elle se tourna vers les soldats et leur sourit. Sur sa veste s'étalait un numéro. Jacob aussi en avait un. Ils en avaient tous.